Bah, moi, c'est Anna, la tante de la rencontre, aussi Sukkot Hallel à Jérusalem. Donc, c'est ma maison, une de mes maisons, on va dire ça comme ça. Et puis, donc, je vais juste partager un peu ce soir à propos de mon vécu. C'est vrai que ça fait un moment où on a voulu un peu se réunir et partager un petit peu. On a enfin trouvé une date. Et voilà, j'ai pas l'habitude de ne pas avoir ma guitare là, donc mais c'est pas grave, on est en famille là. Et... Donc après, j'ai plein de points d'encouragement parce que je pense que on a souvent besoin d'être encouragé dans ce monde. C'est pas très courant, c'est pas très normal dans le monde séculaire d'être un veilleur. Parce qu'un veilleur, qu'est-ce que vous faites? Exactement, et tout ça. Et c'est important d'être rappelé l'importance de ce qu'on fait, en fait, et la valeur et l'effet, en fait, l'énorme effet qu'on a sur le monde entier. Donc voilà. Donc j'ai l'encouragement, et puis j'aimerais aussi parler un petit peu des personnalités individuelles des différentes maisons de prière et comment ça peut être vraiment quelque chose qu'on un point fort de chacun, quoi, des points forts de chacun. Donc voilà. Donc Sukkot Hallel, c'était en 1999. Je dis ça, hein, c'est pas 99. J'ai grandi en Belgique, donc des fois j'ai du mal à dire ça. Voilà. Et j'avais 17 ans. Donc on est déménagé en Israël, on visitait très souvent déjà pour le ministère avec mes parents. Et donc mes parents en Belgique, ils ont fait ce qu'ils appelaient des, je vais en arrière un petit peu encore, prières pour la ville. Donc c'était beaucoup de proclamations, beaucoup de prières en petits groupes où les gens, voilà, ils apportaient les demandes de prières. On priait pour l'éducation, pour les politiciens, pour la culture, pour les médias, pour différentes domaines de la société. Donc voilà, c'était vraiment des moments forts où on réunissait les églises, les pasteurs ensemble, donc l'unité dans les villes, et on priait pour les villes. Et c'était une bonne préparation, je veux dire, parce que c'est vrai que dans l'éveil, c'est beaucoup de proclamations sur une région, je trouve. Et je pense que c'est important, même si chacun ou chacune ou des différentes maisons de prière puissent avoir des différentes directions où ils vont très souvent, on peut dire ça comme ça, comme par exemple l'intimité avec Dieu, comme le I Hope à Kansas City, ils sont vraiment forts là-dessus. Voilà, une autre maison de prière va être fort sur la guérison et voilà, liberté, et puis une autre va être plutôt, voilà. Donc mais il y a des choses en commun qui sont importants. Et à Sukkot Hallel, au début, quand ça s'est commencé, c'était toujours, dès le début, beaucoup de proclamations. Donc, beaucoup de proclamations prophétiques, beaucoup de prières sur les endroits physiques dont on sortait souvent. Et ça, c'était vraiment... on a vécu des choses où on ne savait pas ce qui allait arriver, en fait. On allait sur place et on voyait ce que Dieu allait faire. Et ça, c'était enthousiasmant, c'est sûr. Et puis, donc, par exemple, une chose que Dieu m'a rappelée, même juste en conduisant ici en chemin, c'était du psaume 84. Donc, c'est écrit « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Hein, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. » Et c'est incroyable parce qu'il y a un valet juste à côté de la maison de mes parents et aussi la maison de prière. Ils vivent juste à côté. Donc ça s'appelle le Ben Hinnom. Donc le valet du... En fait, Hinnom, c'est comme l'enfer, en fait. Et c'est là où ils brûlaient les déchets. Donc c'est un peu lourd comme sujet, mais à la fin, c'est positif, donc soyez patients. Donc, en fait, ce valet, en bref, c'était, ils appelaient ça le Ben Hinnom parce qu'ils sacrificiaient les enfants, là. Et donc, l'histoire de cette vallée, c'est horrible, bien sûr. Et après, ils brûlaient les déchets. Donc voilà, c'était appelé la vallée d'enfer. Et donc, cette vallée était tout sec. Personne n'allait là-bas, c'était un peu dangereux d'aller là-bas. Donc nous, on allait pendant la journée parce qu'on sentait vraiment que le Seigneur disait « Allez là-bas, proclamez la vie et la nouvelle vie. » Donc on est allé les générations ensemble. Donc moi, j'avais 17 ans, j'étais avec mes parents, j'allais avec eux. Après, il y avait des enfants aussi. Donc c'était incroyable de voir comment les enfants louaient dans la vallée, et comme Dieu est un Dieu de restauration, c'était vraiment une image de ça. Après un an, 2 ans même, donc mes parents, ils commençaient à avoir plus de herbes. C'est un peu comme les dessins animés où le roi lion, comment on dit ça en français, le roi lion, Lion King, où ça transforme soudainement il y a de l'herbe, il y a des feuilles et tout ça. Donc c'était un peu le cas dans le Ben Hinnom, la vallée de Ben Hinnom, parce que il commençait à pleuvoir. Et donc, mes parents et moi, on est allés, et plusieurs d'autres, on est allés comme incognitos dans un groupe de touristes pour voir ce qu'ils allaient dire sur la vallée, juste comme ça, comme si on était des touristes. Et, et donc, du coup, on était tout enthousiasmés parce qu'il a dit, le guide, il a dit, en fait, cette vallée, c'est un mystère. Parce qu'avant, c'était tout aride et il n'y avait pas d'oiseaux. Il n'y avait rien. Et on s'appelait cette vallée la vallée maudite. Et maintenant, on l'appelle la vallée bénie. Parce que les oiseaux sont retournés. Les feuilles sur les arbres sont retournées, enfin, physiquement, quoi. C'est même pas spirituel, là. Enfin, c'est spirituel, mais c'est aussi... On parle des choses physiques, là. Le guide touriste séculaire, enfin, pas croyant, qu'on sache... Enfin, en Israël, souvent, il y a des croyants un peu secrets, donc on ne sait jamais. Mais donc voilà, ça, c'est un exemple de quelque chose qui arrive dans le realm, le domaine physique, qui est une réflexion de nos œuvres spirituelles. Donc ça, c'est une des choses les plus... voilà, quand je pensais aux choses principales, voilà. Des premiers jours. Donc ça, c'était, oui, voilà, vers 2000. Après, une autre chose qui est très importante et précieuse pour moi, c'était un mouvement parmi les jeunes dans les premiers jours de... Donc souvent, avec les maisons de prière, il y a quelque chose que Dieu fait en parallèle avec la maison de prière. Et ça, c'est vraiment encourageant parce qu'on se dit, OK, c'est pas juste parce que j'aime adorer le Seigneur, c'est pas juste parce que j'aime le nom de Jésus, j'aime... être dans sa présence, c'est aussi en plus, il y a un effet énorme qui s'accomplisse. Et donc en parallèle aussi avec ce catalogue qui commençait, il y a eu plein de nouveaux chants en hébreu. Donc c'est un peu comme en certaines périodes, enfin selon ma perspective, en France, il y a eu pas mal de chants traduits d'anglais. Et c'est pas une chose mauvaise forcément, parce que voilà, on veut aussi profiter de ce que Dieu est en train de faire à travers le monde, mais il veut aussi nous donner des chants originaux dans notre langue, dans le style de chaque pays aussi. Avoir une variété de styles, pas seulement américains partout, comme McDonald's ou voilà. Donc Dieu, il aime la variété, il aime, même quand ça parle de, voilà, il va restaurer la maison de David, le tabernacle de David, comme il était avant. C'est écrit comme il était avant. Donc on sait que dans Chronique, donc ça parle de, il prosternait, il dansait, il tourbillonnait, voilà, il y a plein de variétés, plein d'instruments, je ne sais pas combien de trompettes, voilà, plein de variétés avec Dieu. Donc voilà, je retourne le mouvement des jeunes. Donc au début, c'était juste dans notre appartement, et voilà, on louait pendant 2 heures, en famille, et puis on a invité des amis. Et puis on a invité encore des amis, et puis eux, ils ont invité des personnes, et puis voilà, ça s'est grandi comme ça. Mais ce qui était vraiment beau de voir, c'était aussi que les jeunes, donc je parle des adolescents, hein, même pas les vingtaines, je parle des 14, 15, 17, 16, 17, 18, ils venaient après les groupes de jeunes, ou après l'école, ou après l'église, parce qu'ils avaient tellement soif. Il n'y avait jamais assez de louanges. On passait 2 heures, ils disent « Oh, il faut qu'on arrête, c'est pas vrai !» Donc c'était beau de voir juste la faim et la soif de Dieu, de sa présence. Comme David dit dans les psaumes, « Quand est-ce que je vais pouvoir aller vers Dieu ? Quand est-ce que, c'est quand la prochaine fois qu'on va pouvoir aller ?» Et voilà, donc il y a une soupir après Dieu, une soupir après sa présence vraiment... qui était fort pendant ce temps. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment focaliser là-dessus, dans nos prières, quand on commence une maison de prière. Et les commencements, ça peut être même des années après. Un commencement, ce n'est pas forcément 2 mois ou 1 an. C'est varié, c'est différent pour chaque maison de prière. Et c'est OK si on se sent un petit peu, OK, on est toujours dans le commencement, ça fait quelques ans et on est toujours... Ce n'est pas grave, chaque maison de prière est unique. Et donc, voilà. Il faut qu'on soit rassuré aussi. Donc je disais, oui, la faim et la soif de Dieu. Et puis, les générations ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose que il y avait toujours. Dès le début, il y a eu toutes les générations ensemble qui travaillent ensemble. Et ça, je trouve très, très important. Parce que, voilà, on peut apprendre de l'un et l'autre. Et voilà, même s'il y a certaines veilles, donc chez nous, il y avait souvent des veilles dans différentes langues, parce qu'à Jérusalem, c'est très international, donc selon l'endroit où on est, on s'adapte. Donc là-bas, après, il y avait aussi des thèmes. Par exemple, si quelqu'un avait à cœur de prier pour le monde musulman, donc on avait une veille pour prier pour les musulmans. Voilà, on avait une veille pour la jeunesse, pour les pré-ados, pour les ados, pour chaque tranche d'âge. Comme ça, ils faisaient des activités qui correspondaient. Après, ça n'empêche pas qu'il y a certains événements de louange où il y a tous les âges ensemble. Ça, c'est important aussi. Donc, mais c'était beaucoup de générations ensemble. Et ça, j'ai apprécié autant qu'une personne qui a commencé très jeune, parce que je me sentais quand même vulnérable. Déjà une fille dans le Moyen-Orient et 17 ans, donc ça fait un peu... Bon, j'étais brune à l'époque, mais ça ne fait pas différent. Donc c'était chouette d'avoir des plus âgés là, même si, bien sûr, les ados, on aime bien le rock, on aime bien faire un certain style, mais voilà, si on a la soif, vraiment la faim et la soif du présence de Dieu qui nous réunit, ça fait rien. Donc, par exemple, une fois, j'avais toujours des rêves. Donc, c'est quelque chose que Dieu me parle souvent à travers des rêves. Et donc, j'avais 17 ans, je dirigeais une veille et on avait toujours une dirigeur de prière. Ça s'appelle prayer leader. Donc, et j'appréciais beaucoup parce qu'on priait ensemble avant, donc pour la protection, et ça, c'était important. Et surtout, dans certaines périodes, par exemple à Ramadan en Israël, c'est toujours très intensif. Et dans chaque endroit, il y a des moments un peu intensifs. Même ici, j'ai senti, on a parlé avec Alana, on a fait les veilles ensemble. On a senti certaines veilles, c'était un peu plus dur que d'autres, même beaucoup plus dur que d'autres. Et voilà, donc on priait toujours ensemble avant. Et donc j'ai pris une sieste avant cette veille en particulier. Avant que j'avais des enfants et que je pouvais dormir quand je voulais. Donc j'ai pris une sieste en pleine journée, juste parce que je pouvais. Et j'ai eu une rêve d'une dame qui était peinte en moitié blanc et moitié noir. Et elle disait des prières, mais éloquente, on dit en français, éloquente, vraiment des prières longues et très beaux et très... Voilà. Mais... J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette rêve. Et elle disait toutes les paroles, juste, toutes les paroles puissantes, et voilà, de la proclamation et tout ça. Donc toutes les paroles étaient correctes, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc j'ai partagé cette rêve quand on priait ensemble avant de commencer. Et donc ils ont prié pour moi, que toute... voilà, malédiction ou joug soit brisé, parce que je me sentais quand même assez lourde dans mon esprit. Après, on a commencé et c'était vraiment fort, c'était vraiment bien. Merci Seigneur, sa grâce. Et puis après, il y a une dame qui est entrée. Elle s'est assise juste au milieu devant, comme ils font souvent les gens religieux, enfin, qui fonctionnent beaucoup dans la religiosité. Elle commençait à prier, comme dans le rêve que j'ai eu juste avant. Mais c'était lourd. On sentait vraiment la sorcellerie, quoi. Et donc heureusement, je n'étais pas toute seule. Et j'avais ce dirigeur de prière qui est allé avec douceur et vraiment compassion aussi. Il l'a pas forcé, mais il a demandé de parler avec elle hors du bâtiment. Donc déjà, c'est mieux que de dire tout de suite, il faut que vous partez, madame, parce que sinon, c'est toute une scène. Donc, il a dit, est-ce qu'on peut parler là-bas, juste mentionner quelque chose ? Ah oui, donc elle est allée, et puis il lui a dit donc gentiment qu'il fallait qu'elle parte. Donc elle est partie, merci Seigneur. Et voilà, on a vécu un moment fort dans la louange. Il y a eu une percée, mais j'ai apprécié cette protection. Et souvent des gens, Dieu va réunir des gens qui ont des différentes dents. Donc mon mari Dan, malheureusement il pouvait pas être avec nous ce soir, il est à la maison avec nos quatre petits, et il est très protecteur. Donc lui, son rôle, c'était souvent le dirigeur de prière qui demandait aux gens de partir. Moi, je pourrais jamais faire ça. J'ai trop de mal. J'aime pas faire ça. Donc, heureusement, on a tous des personnalités différentes. Et souvent, c'était lui qui avait les yeux ouverts. Donc, ça, c'était quelque chose que, au début, je faisais la louange toujours avec les yeux fermés pendant 2 heures, comme ça. Et j'ai dû apprendre aussi. Le dirigeant de louange doit aussi apprendre à ouvrir les yeux assez souvent, de ne pas. Enfin, éviter de ne pas trop, voilà. Mais ça aide d'avoir quelqu'un qui a vraiment toujours les yeux ouverts, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Et donc, Don, il avait toujours comme le regard comme ça. Et donc, ça m'a aidé. Donc, si on veut vraiment inclure tous les âges, c'est important d'avoir cette couverture. Donc, voilà. Cet été, donc plus récemment, donc après plusieurs ans, il y a eu un appel de Dieu sur mes parents et l'équipe de dirigeurs de Sukkot de commencer Elav, donc ça veut dire vers lui en hébreu. Et c'est une conférence de jeunes. Et en fait, ça, au début, c'était One Thing Jerusalem, donc c'était la même idée de One Thing Kansas City. Mais c'est chouette parce que le Seigneur a vraiment donné une identité personnelle. C'était plus vraiment, voilà, d'inviter toujours des gens de l'étranger. Plus souvent, il y avait des groupes de louanges qui dirigeaient, soit en arabe ou en hébreu, ou voilà, en anglais aussi un petit peu. Mais ça s'est devenu au fur et à mesure des années beaucoup, beaucoup plus local. Et d'ailleurs, dans la maison de prière aussi, ça est devenu beaucoup plus local. Au début, il y avait beaucoup de. Ils ont commencé assez tôt, je dirais, oui. Oui, déjà en 2000, en fait. Oui, déjà un an après avoir commencé l'éveil. Ils ont commencé une stage, internship, stage. Donc, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient d'étrangères. Mais maintenant. Ils sont environ 85% local, israélien. Voilà. Il y a un jeune homme palestinien aussi qui fait partie de l'équipe. C'est beau de voir comment Dieu a réconcilié vraiment les juifs et les arabes ensemble. Donc la personnalité et la chose principale que cette conférence a, c'est la réconciliation entre juifs et arabes. Donc, c'est très pertinent pour la région, évidemment, comme vous le savez tous, j'en suis sûre. Et c'est incroyable de voir comment Dieu fait un œuvre. L'année dernière, juste, j'essaie de garder ça brièvement. L'année dernière, ils ont lavé les pieds de l'un et l'autre. C'était vraiment un œuvre du Saint-Esprit. J'étais derrière l'estrade avec ma mère, on était par terre en train de pleurer, en train de dire, mais Seigneur, fais ça, attire-les, parce qu'on ne peut pas forcer les Juifs arabes de se laver les pieds de l'un et l'autre. C'est très intime, enfin, c'est très mal à l'aise si ce n'est pas un œuvre de Dieu. Ça ne se fait pas. En fait, ils sont très. Ils n'ont pas. La culture, ils vont dire, ben non. Ils vont pas dire, ok, si vous voulez. C'est une culture où ils sont assez directs, assez. Si je veux pas, je fais pas. Mais le Seigneur a fait son œuvre et ils ont. Ça a pris quelques minutes, mais après ils ont couru vers le devant pour laver les pieds de l'un et l'autre avec les larmes. Ils se tenaient dans les bras. Ils se disaient, je suis désolée pour ce que mon pays a fait, pour ce que mon peuple a fait à ton peuple. Et tu avais des soldats dans tenue de soldats en train de s'ajoutir et sur les genoux en train de laver les pieds d'un Palestinien ou de Jordanie ou d'Égypte qui sont venus et de dire pardonne-nous et l'autre aussi. C'était fort. Donc voilà, ça c'était l'année dernière. Cet été, donc 2015, ils sont allés plus loin. If you can believe it. J'étais étonnée de voir, enfin on est toujours étonnée, émerveillée de voir l'œuvre de Dieu, non? Donc cette année, c'était la persécution qui va venir, qui est évident que la persécution va venir sur cette région. Et donc, il y a certains qui ont représenté, qui ont choisi de se tenir comme représentant et de dire je fais mon engagement, moi et ma famille, de vous héberger, de vous prendre dans notre maison, vous, mes frères et sœurs palestiniens, et puis un frère palestinien qui a dit vous, mes frères et sœurs israéliens, si jamais vous êtes persécutés. Parce que, par exemple, les chrétiens palestiniens sont rejetés par leur communauté musulmane, ils sont aussi rejetés souvent par la communauté messianique, et donc ils se retrouvent très seuls. Et donc Dieu place les personnes seules dans les familles. Donc c'est incroyable de voir, et même justement le Seigneur ouvre les portes pour que les jeunes puissent venir de Jordanie, Égypte et aux alentours, des alentours d'Israël, pour venir à cette conférence. Donc voilà, oui, je voulais partager aussi juste une dernière petite chose, et puis c'est bon. Il y a une fille égyptienne qui a partagé que Dieu lui a demandé son témoignage aux conférences cet été. Il y avait une groupe de 5 égyptiennes qui étaient là cet été. Et elle a dit que le Seigneur lui a dit, priez pour les Juifs, priez pour le peuple d'Israël. Elle a dit, tais-toi, diable. Enfin, elle ne croyait pas que c'est Dieu du tout. Elle était complètement, non, c'est l'ennemi, c'est pas Dieu qui me parle, je ne vais pas prier pour mon... Enfin, voilà, même si elle est croyante, chrétienne, elle suit Jésus de tout son cœur, il y a des choses culturelles, des choses qui sont difficiles, même pour les chrétiens, d'accepter. Mais Dieu est à l'œuvre, comme toujours. Donc voilà, Dieu a travaillé son cœur. Et donc, elle a commencé à prier pour les Juifs, prier pour le peuple d'Israël, prier pour le pays d'Israël, l'État d'Israël. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'énorme pour elle de dire. Et elle a commencé à avoir un amour pour Israël. Mais elle a gardé ça comme secret. Mais comme par hasard, elle a entendu quelqu'un d'autre qui parlait entre eux. Elle a dit, ah, ça vous est arrivé, moi aussi. Et donc, ils ont parlé. Et puis, elle a parlé avec des autres. Et puis, elle a rejoint un réseau email où elle a vu qu'il y avait des centaines d'Égyptiens où c'était pareil. Elle a dit, there are hundreds of us. On est des centaines qui prient pour Israël maintenant. Et c'est juste dans les derniers mois, en fait. Donc voilà, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Donc, Donc voilà, ça c'est un peu de mon vécu en Israël. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut aussi prendre un temps pour avant que j'apporte aussi un petit encouragement que j'ai préparé aussi.
Juste rajouter.
Rajouter.
Mmh. Et il y avait Rania qui était de Nazareth qui était là.
Oui.
Et elle racontait comment elle a aussi vécu ça et que elle, en tant qu'arabe, une fois qu'elle s'est alignée avec la volonté de Dieu, c'est-à-dire de prier pour Israël, Dieu lui a montré quelle était la vocation des Arabes. Et elle montrait que la vocation des Arabes, c'est la prière, justement. Parce que le nom d'Ismaël, c'est Dieu entend ton cri. Mmh. Et elle disait, imaginez, ne vous faites pas avoir par le racisme, mais imaginez.
Oui.
Ils ont cette bénédiction sur eux qui est Dieu entend ton cri. Et dit Jérémie a voulu détourner cette force que Dieu avait. Ils sont très forts dans leur pratique. Il y a vraiment. Voilà. Donc c'est très fort de
Dieu. Persévérant et déterminé,
et,
oui.
Et du moment où elle s'est alignée avec ce que Dieu disait, et Dieu disait, c'est pas une histoire de supériorité, c'est une histoire de priorité. Et elle disait, c'est maintenant.
Oui.
Qui revient à Dieu. C'est la priorité de Dieu maintenant. Et elle dit, c'est pas une histoire de supériorité, c'est une histoire de priorité.
Ouais.
Et en fait, en obéissant et en rentrant, eh ben, elle a retrouvé la vocation de son peuple. Parce que Dieu disait, mais moi, je veux prier pour le peuple.
Oui, oui, oui.
Et Seigneur disait, non, c'est pas ce que je te demande, c'est pas ma priorité.
Waouh. Ah oui, non, c'est très important. Et c'est vrai que. C'est vrai que des fois, on a du mal parce que en Europe, hein, c'est un peu difficile. Même si on a une révélation du cœur de Dieu pour Israël, on se sent un peu mal à l'aise ou un peu timide des fois. Avec certaines personnes, on veut pas être, on veut pas être mal compris, qu'on pense que un peuple est supérieur ou parfait, voilà. Et c'est important de ne pas hésiter et de ne pas être timide dans notre stand, dans notre position. Parce que aussi, si Dieu est en train de demander à des Égyptiens de prier pour Israël, combien de plus, on n'a pas d'excuses, on n'a pas de raison pour être timide pour prier pour Israël. Donc si le Seigneur n'a pas déjà fait cette œuvre dans votre cœur, je vous encourage vraiment d'être ouvert. Tout simplement de demander, Seigneur, montre-moi ton cœur. Montre-moi ton cœur.
Il y avait un sujet de prière pour le monde arabe. C'est, par expérience, c'est quand ils se convertissent, ils ont toujours la racine du rejet d'Ismaël. Donc, ils ne comprennent pas, via par rapport à Israël, les positions de Israël. Et ça, c'est un sujet de prière pour que vraiment, comme tu disais, Jésus vient, je vais les visiter. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont arabes, dans une arabe. Le Seigneur veut user l'Israël dans encore cette confrontation.
C'est
Dieu
qui le fait.
C'est Dieu qui le fait. Il faut prier vraiment pour que le Seigneur les touche, qu'il les libère dans leur appel. On a vécu des confrontations, ils ne comprenaient pas, ils disaient Israël, etc. Voilà.
Non, c'est vrai, oui. Et l'année dernière et cette année, donc les deux dernières années à Elav, c'était justement un sujet. Principal et central, c'était le cœur du Père, donc l'esprit d'adoption, et que Dieu répand l'esprit d'adoption sur ce peuple et en particulier, oui, pour le peuple arabe. Donc c'est vrai, oui, c'est important. Donc voilà, plusieurs choses que j'apprécie à propos de la maison de prière, c'est donc voilà, un refuge, j'avais refuge, sanctuaire, un endroit pour contempler sa beauté, restauration et créativité. Donc voilà, j'avais le psaume 61. Donc je vais commencer avec l'idée de la maison de prière comme un refuge. Et j'adore ce verset qui dit « Car tu es pour moi » un refuge, un tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Donc voilà, souvent, si c'est la guerre spirituelle ou physique, même, quand on a démarré avec 24 heures sur 7, il y avait le intifada, donc c'était vraiment un temps difficile de guerre physique, mais des fois, la guerre spirituelle, c'est même encore plus difficile. Donc voilà, il faut qu'on soutienne les uns les autres et qu'on trouve un refuge en lui, vraiment. Et je pense que c'est important pendant l'éveil qu'on dirige de toujours être prêt à s'adapter et suivre l'esprit sur le coup. Par exemple, si quelqu'un entre et il faut qu'on reste sensible. Si on a prévu tout un truc de je ne sais pas, bon, la joie c'est important aussi hein, et de toujours, la reconnaissance c'est important, j'allais mentionner ça aussi, la reconnaissance, de commencer avec la reconnaissance, pas forcément... vite et hyperactif, mais reconnaissance. Si oui, ok, mais voilà, que ça soit un cœur reconnaissant. Mais si quelqu'un entre et a eu, par exemple, des rêves troublants. Donc, l'été dernier, j'étais là-bas, en Israël, et moi et Don, on a tous les deux eu des rêves. C'était pendant Ramadan, justement. On a eu des rêves horribles, mais des cauchemars, mais pire que l'enfance, quoi. Pire que les cauchemars d'enfance, c'était horrible. Et c'était vraiment si dur qu'on a dû on a presque sorti en pyjama. Enfin, c'était vraiment... On avait besoin d'aller à la maison de prière. Et on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on a dû juste aller à la maison de prière. Donc, on a... heureusement, on était juste à côté, donc 2 minutes à pied. Heureusement, ça convenait. Et on est allé, et la personne qui faisait la veille, c'était une veille où il lisait la parole. Juste des chapitres de la parole, juste comme ça. Il y a des gens qui ont ça à cœur, et ça, c'est extraordinaire, comment la parole proclamée est puissante. Et donc, elle... Et puis, elle prenait une pause, et il y avait de la musique instrumentale pendant un long moment, et puis elle lisait encore. Et on s'est assis comme ça, on ne savait pas quoi faire avec... Enfin, c'était une guerre spirituelle, c'était vraiment difficile. Et on ne pouvait même pas rien dire, c'était... Et donc, on a resté là pendant une heure jusqu'à ce qu'on a senti une révélation de ce que Dieu voulait qu'on fasse avec ses rêves, et comment on prie. Et donc, on a dû vraiment juste chercher la face de Dieu. Et donc, j'apprécie comment la maison de prière est vraiment un refuge où, pendant la guerre, on peut entrer et être en sécurité. Il y a la parole, il y a peut-être la musique, il y a peut-être voilà, des autres prières ou des autres chants. Et la personne peut tout simplement être, pas toujours... participer, même si c'est super quand les gens participent, ça fait du bien, c'est fun, mais il y a des moments aussi où les gens ont besoin de simplement réfléchir à quelque chose, ou voilà, et ça c'est bien aussi. Donc je trouve que c'est important parce que en fait on n'a pas eu ça depuis des centaines d'années dans l'Église. L'Église était une sanctuaire. Les cathédrales, et même dans les films de Notre-Dame, Hunchback of Notre Dame, Sanctuary, voilà. Les gens étaient en refuge, en sécurité quand ils étaient dans l'église. Et donc, ce n'est pas forcément un bâtiment, mais c'est un lieu où, voilà, un lieu où la présence de Dieu est honorée, où, où Dieu est mis au centre. Et ça, c'est l'important. Et donc, les gens peuvent venir être en sécurité. Et ça, c'est beau. Donc une sanctuaire, voilà. Et encore une fois, dès que ça vient plus public, donc je ne sais pas où vous en êtes exactement avec vos maisons de prière, si c'est encore ouvert à la public ou pas, mais voilà, ou si vous voulez partager un petit peu, je ne sais pas, D'accord. Oui. Voilà.
À certaines personnes, on n'en est pas là du tout.
Ok. D'accord. Ouais. Et chez vous? C'est ouvert à la public ou c'est...
Oui.
Ok. Ouais. D'accord. Mmh. Oui, chez nous aussi, c'était comme ça. C'était certains créneaux, oui, et certains créneaux, non, au début. Enfin, il y a toujours eu, c'était chez nous, juste parce que ça marchait bien comme ça. Les jeudis soirs, c'était une soirée de louange. Et puis les lundis soirs, c'était aussi avec un peu d'enseignement. Voilà, donc chaque maison de prière fait comme Dieu leur appelle, comme l'appel de Dieu leur interpelle. Mais chez nous, c'était comme ça. Donc voilà, mais dès que ça devient ouvert à la public, voilà, il est encore plus essentiel d'avoir des contacts avec des autres veilleurs et des comptes rendus. Si c'était difficile, c'est bien d'appeler et dire ouais, c'était dur pour moi l'autre jour, qu'est-ce que tu pensais, même si on n'a pas le même créneau. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire parce que j'y pense pas forcément tout le temps où la vie est pleine, on devient occupé, c'est vrai, mais j'ai juste pensé à ça parce que pendant que je préparais, je réfléchissais au début de ce que t'allais et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, au début on était toujours au moins à deux. Maintenant, il y a des veilles où c'est juste une personne qui vient et qui joue la louange et qui prie tout seul, et ça c'est ok aussi, même si c'est 24 heures sur 7, donc forcément il va y avoir des créneaux où c'est un peu plus calme, où, voilà. Mais en général, il y a des périodes où, par exemple le soir, de 7 à 9 heures du soir, où des gens viennent et c'est plutôt la louange, une équipe, une groupe de musique. Donc voilà, la variété encore. Mais voilà, même si quelqu'un est seul, d'avoir un compte rendu, de parler entre nous. Feedback, voilà. Oui, oui, ça peut vraiment, vraiment aider. Et après, ce que j'aime de la maison de prière, c'est que c'est un endroit pour contempler sa beauté. Bien sûr, il y a le psaume 27 de « Une chose que je désire ardemment », c'est de contempler ta beauté, voilà, de te voir face à face. Et ça, c'est quelque chose qui est important aussi dans les derniers temps, parce qu'il y a le danger de perdre son premier amour, comme c'est écrit en Apocalypse. Et c'est beau de voir comment Dieu restaure le tabernacle de David au même temps que les derniers jours où il restaure cette idée de contempler sa beauté. Parce que c'est vrai que c'est quand même un peu nouveau cette priorité, cette thème, cette idée de venir juste pour just to gaze, juste pour contempler, juste pour regarder, juste pour apprécier, juste pour voilà. Vous partagez quelque chose? Oui. Ouais. Donc voilà, c'est. J'avais aussi. Psaume 68 qui part de ça. Oui, voilà, qui part du soif encore. Oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Hein, des fois, on sent, on ne peut pas s'empêcher, il faut qu'on aille vers la maison de prière, il faut qu'on. Voilà. Dans une terre aride, desséchée, sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Donc, à travers de contempler, à travers de ce processus de prendre le temps, ce qu'on ne fait pas souvent dans l'église, où il y a un agenda, où il faut 5 chants, 2 rythmés, 3 calmes, et puis les annonces. Et... Donc, moi, j'ai du mal avec ça. Donc, heureusement, ils sont flexibles là où je fais la louange à l'église de temps en temps, parce qu'ils me connaissent, ils savent que je me suis formée dans la maison de prière, donc un chant va être... bon, j'essaye de me contrôler un petit peu dans l'église, mais ce que j'aime, c'est de prendre le temps de contempler. De contempler, si on contemple, on ne va pas juste regarder et puis avancer encore à autre chose. C'est vraiment... voilà. Donc je sais que vous tous, vous comprenez exactement ce que je suis en train de dire. Et voilà, il désire du FaceTime avec son épouse. Je viens de découvrir FaceTime. Je suis un peu tard, peut-être. Je pense que les gens dans les années trentaine, ils sont un peu entre. Hein, ils ne sont pas trop focalisés là-dessus, sur la technologie, mais ils ne sont pas non plus dépendants là-dessus. Bon. Alors, je viens de découvrir FaceTime. Et c'est chouette de voir, pendant la journée, quand j'appelle mon mari au travail, je peux lui voir. C'est super, quoi. Et Dieu veut ça avec nous. Donc c'est tellement chouette que dans la maison de prière, ça soit possible. Parce que c'est pas toujours, malheureusement, ça devrait être, mais c'est pas toujours possible dans les réunions de dimanche ou de samedi, si on se réunit le samedi, à l'église, on va dire. Mais chaque chose a son but. Donc je parle pas contre l'église, je parle pas contre la réunion de semaine, mais la maison de prière, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir plus de temps. Et il y a beaucoup qui peut venir de ça. Donc, prenons le temps. C'est important de ne pas se précipiter, d'aller directement vers un champ. Bon, si vous êtes dirigé, si vous êtes interpellé de commencer par un champ pour la veille, faites-le en obéissant au Seigneur et vous verrez ce que Dieu va faire. Mais je veux dire... n'hésitons pas de prendre même un quart d'heure à juste chanter son nom, des fois, ou chanter un verset, prendre un verset de la Bible et le, si on n'est pas chanteur, c'est pas grave de le proclamer avec la musique derrière ou autre. Donc voilà, de juste prendre le temps pour ce FaceTime avec Dieu. Donc voilà, et la dernière chose que je voulais mentionner à propos de la maison de prière, ce que j'apprécie, c'est l'ambiance de créativité. Donc, combien de fois est-ce que j'ai dit « Oh, si seulement j'avais enregistré ce qui s'est passé, parce qu'il y a eu des choses qui sont sorties. » Voilà, vous savez ce que je veux dire. Et c'est chouette de voir si on demande, si on a l'audace de demander « Dieu, qu'est-ce que tu as sur ton cœur ?» Qu'est-ce que tu es en train de penser maintenant que tu veux me montrer? Il va y avoir des choses qui sortent spontanément qu'on n'a pas préparées du tout. Et ça enlève la pression aussi parce que des fois, des gens qui n'ont pas d'expérience dans la maison de prière, ils vont dire 2 heures, mais il faut qu'on prépare qu'un chant et comment on va faire? On a déjà... Et c'est fun, c'est agréable de voir, de ne pas savoir ce que Dieu va faire, de se dire, ok, Dieu, qu'est-ce que tu vas faire cette fois-ci? Ça va être différent que la fois dernière, ça va être, bon, souvent il va y avoir des choses qui sont similaires. C'est vrai que souvent quand je fais des veilles, il y a les thèmes de la liberté, de la proclamation de la liberté, ou bien la guérison, ou bien contre l'esprit de religiosité, ou voilà, des choses comme ça qui sortent, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai sur mon cœur. Mais on ne sait jamais ce que Dieu va faire. Et c'est ça qui est tellement merveilleux, c'est ça qui est tellement... qui fait que ça ne soit pas ennuyeux, c'est une des choses, parce que voilà... Il y a plein de choses qui font que ça ne soit pas ennuyeux. Mais il faut que ça soit, qu'on soit connecté. Donc voilà, il y a une ambiance de créativité, mais j'ai vu que si je viens et que je pense à autre chose, hein, si on est honnête, on a toujours vécu des moments où, on a tous vécu des moments où on chantait, où on lisait, mais ah, j'ai pensé, ah oui, je n'ai pas payé cette facture et j'ai pas. Et il faut qu'on fasse attention de vraiment laisser tout à la porte, comme on dit à l'église, bien sûr aussi. Mais donc ça c'est normal, mais il faut qu'on soit rappelé parce que si on n'est pas connecté, si on n'a pas la connexion, ça sert à quoi? Parce que le but, c'est son cœur. Le but, c'est de prier ce qu'il a sur le cœur. Le but, c'est de s'étendre la main, d'avoir le cadeau qu'il veut nous donner pour cette veille-là en particulière, et de le to pull it down, de le arracher, de le faire descendre, vraiment des fois par le combat si nécessaire, et de le parler, de le proclamer pour que ça devienne une réalité. Donc, et souvent la créativité vient après qu'on a pris le temps de faire cette connexion avec Dieu, de dire ouais, je ne suis pas pressée, on n'est pas bloqué par une programme ou si on a une programme avant, si on est plutôt du style où on aime bien avoir prévu quelque chose, ça c'est bien aussi. Et je ne dis pas qu'il faut être spontané tout le temps, ça c'est chacun son truc. Et c'est bien d'avoir des fois des versets qui sont imprimés. Je sais qu'il y a eu des veilleurs ici qui faisaient ça aussi. Et ça c'est vraiment bien. Et après, je suis sûre que voilà, après, quand le Seigneur fait des choses, on s'adapte. Et des fois, ça reste sur le programme, ça c'est pas grave non plus. Mais voilà, d'être toujours ouvert et connecté au cas où, si Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Et c'est comme une prise. J'ai pensé à cette image d'une prise d'électricité. Si ce n'est pas connecté, il n'y a rien qui passe. Et bien sûr, on va se sentir un petit peu, ok, quelle heure, ok, encore, on va regarder l'horloge et tout. Mais il faut qu'on persévère pour avoir cette connexion. Et j'aime bien, j'ai souvent écouté les enseignants de Kim Walker, je ne sais pas si vous connaissez, et elle a dit « Je vais vivre dans le fruit de ce moment. » Et ça c'est quelque chose que je me suis rappelé juste maintenant, parce que ça a rapport avec ça, c'est que voilà, si on persévère pour cette connexion avec Jésus pendant l'éveil, et que les choses sortent, et que voilà, on travaille des fois si dur, des fois on est fatigué, des fois il faut qu'on persévère même si on n'a pas envie. Et il y a des moments où c'est très facile et ça va tout seul. Il y a des moments où on ne sait pas pourquoi, mais ça prend de l'effort. Et c'est, il y a du combat là-dedans aussi. Mais voilà, si on persévère, on va vivre dans le fruit de ce moment, de ces moments-là. Donc ça, c'est encourageant. Il y a tellement de valeur dans ce qu'on fait. Et enfin, je voulais vous encourager, je sais que vous savez ça déjà, mais juste un rappel que Dieu est à l'œuvre à travers la louange et l'intercession pour transformer vraiment l'ambiance, l'atmosphère, même le royaume autour de nous, parce qu'on vit dans un monde où voilà, il y a l'obscurité. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup de la maison de la TDR ici à Guilvillers. C'est il y a une onction particulière pour repousser l'obscurité, pour vaincre l'obscurité avec la lumière. Et vous voyez cette, je ne sais pas si c'est une peinture ou si c'est la craie ou n'importe, mais l'œuvre d'art avec la croix et la lumière qui est, voilà, et puis les vagues en dessous. Donc au début, quand j'ai commencé à faire des veilles ici à la TDR, j'ai commencé dans le caveau. Enfin, j'étais ici souvent pour les tabernacles de David mensuels, mais il n'y avait pas si peinture à l'époque-là. Donc pendant un bon moment, parce que je n'ai pas pu venir au tabernacle pendant un moment, à cause des raisons familiales, mais donc j'étais en bas, et dans les veilles en bas, j'ai eu une vision de la lumière qui repoussait l'obscurité, mais comme ça exactement, qui descendait d'une colline et qui repoussait comme ça et comme une vague, parce que ça ressemble en fait. Et quand j'ai vu ces deux œuvres d'art comme ça ensemble, quand il faisait moins froid, je suis montée ici donc j'ai vu ça, j'ai dit, parce que c'était parce que j'ai pas vu quand je suis entrée dans la pièce, c'était pendant le truc, j'étais là. Et puis j'ai regardé et j'ai vu ça et c'était chouette de voir ça. Parce que il y a une onction particulière pour la lumière qui perce les ténèbres. Vraiment pour les percer. Et donc voilà. Donc je pense à ça. Ça c'est la chose principale quand je pense à la TDR ici à Guilvillers. Donc je vous encourage avec ça. J'ai jamais eu l'occasion, je pense, de partager ça. Je sais pas. peut-être avec... Non, jamais. Des fois, on ne prend pas le temps de... J'oublie de partager les choses, mais voilà. Donc, quand on dit le ciel vienne, que le ciel vienne, c'est une prière que Dieu exauce. C'est une prière que Dieu veut vraiment répondre. Il veut répondre à cette prière. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a enseigné de prier comme ça. Ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne sur la terre comme dans les cieux. Et donc, soyons encouragés que vos œuvres, vos heures et vos heures et vos heures de contempler sa face, de profiter de sa présence, d'être tout simplement avec lui, de proclamer les prières, de vraiment prendre position dans l'esprit. C'est pas en vain, c'est vraiment, ça porte beaucoup de fruits. Et des fois, on ne le voit pas tout de suite. Voilà, mais je vous encourage ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment, ça va porter de fruits. Vous allez vivre dans les fruits de ces moments. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager. Merci.